France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, rendez-vous au sommet de la chanson française avec Monsieur Serge Lama. Depuis les années 60, il a créé quantité de succès populaires qui ne l'empêchent pas d'être un amoureux de la littérature et de la poésie. Il parraine aujourd'hui la parution d'un coffret consacré à son père, Georges Chauvier, chanteur d'opérette qui ne connut jamais les succès de son fils. Serge Lama, une histoire de famille dans quelques minutes. En fin d'émission, musique légère avec Serge et Laïc. Mais d'abord, dernier épisode de l'hommage à Fernandel que je vous propose depuis le 26 février, date du 50e anniversaire de sa disparition.
Une bonne chanson française, l'amour incompris à nous. Non, monsieur, je vous en prie, soyons sérieux. Allons, au travail. Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la femme est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à imberbe, le gros la maigre et la maigre le gras. Le doucereux adore la femme à serpe, quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour s'aimer, c'est très curieux, il n'y a pas de juste milieu. Oh non, mais... Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Approuvez-vous tous ces chats de gouttière qui pour l'amour sont après en miaulant? Si on faisait comme eux des heures entières, on trouverait que c'est trop fatigant. Et pour les chiens, croyez-vous que c'est bizarre, même dans la rue, sous le nez des passants? Pour le taureau, c'est encore plus barbare. C'est un peu vache, je vous le dis en passant. Le taureau, la vache, le chat, le chien, moi je trouve que ce n'est pas bien. Et non, 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 moi je trouve que non, c'est... Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Je n'ai jamais compris l'amour.
Un vrai petit chef-d'œuvre que cette chanson, enregistrée par Fernandel en 1938 pour le film Le Schpoons, vous savez, le film de Marcel Pagnol où il dit tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'était en 1938, donc avec l'orchestre de Pierre Chagnon.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et mon invité aujourd'hui, j'avais été déjà très heureux de le recevoir en 2013 parce que c'est une de mes idoles, un des grands de la chanson française. Aujourd'hui, il revient à l'occasion de la sortie d'un disque consacré à son père, le chanteur Georges Chauvier. J'ai la grande joie d'accueillir Serge Lama.
Cette chanson exagère, elle en...
le cœur. Elle tombe en poussière, on la connaît par cœur. Cette chanson exaspère, c'est la chanson du faubourg. Elle a perdu la guerre, comme papa, parlez-moi d'amour. C'est une chanson qui navre, comme les cargos du Havre, et à... un peu par la ligne, c'est une chanson qu'on souligne. Sous son apparence mièvre, elle vous entrouvre les lèvres. Au plus profond de la mémoire, elle nous raconte une histoire. La, 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 la. Cette chanson nous relance, elle vient comme un mât d'amour. Elle sent si bon la France, comme papa, parlez-moi d'amour.
Bonjour Serge Lama.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir
Benoît.
Avec cette chanson. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont pu entendre qu'il y avait deux chanteurs, parce qu'il y a vous et votre père, Georges Chauvier. C'est un tour de chant que vous avez organisé en 1981 et un disque pour saluer votre père et tout ce que vous lui deviez. Et moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez quand même des voix qui se ressemblent énormément.
Oui, bah, bien sûr. Bah, vous savez...
C'est les gènes.
C'est les gènes et on hérite effectivement de la voix. Peut-être que la mienne était un peu plus haute, un peu plus solide aussi que celle de mon père, mais mon père était un chanteur lyrique, mon père était équipé pour chanter l'opérette classique, et voire même faire un ténor léger dans un opéra classique, il était fait pour ça.
Les rôles de baryton aigu qui sont très répandus dans le répertoire français notamment, et qu'il a chanté dans Véronique et d'autres œuvres.
Bien sûr.
On va y revenir, mais là, vous avez voulu, en cette année 81, où il était toujours parmi nous, l'emmener avec vous, parce que c'est vrai que ça a été une carrière un peu brisée que la sienne, on va y revenir, mais c'était une façon de saluer tout ce que vous deviez à votre père.
Oui, j'ai probablement eu de l'instinct, parce que, d'abord j'ai eu l'envie de faire chanter papa dans un disque, que sa voix soit imprimée quelque part, et qu'il y ait un souvenir, et puis que aussi, je me suis dit que peut-être une partie du public serait content de ça, et ça a d'ailleurs été le cas. Et donc, ça a été un cadeau que je faisais à mon père, qui était un cadeau empoisonné, parce que lui, qui était inquiet pour sa voix tout le temps, il était tout le temps là en train de chercher sa voix du matin jusqu'au soir. Alors, tout d'un coup, je le mets dans le bain à 60 et quelques années.
Il en a été heureux.
Je pense. En tournée, il était moins heureux, parce qu'en tournée, il avait tellement l'habitude de vivre dans une maison, d'être tranquille, que la tournée, c'était très dérangeant pour lui, comme ça le devient pour moi d'ailleurs. C'est curieux, parce que c'est vrai qu'on se retrouve quelque part.
Alors cette chanson, on la retrouve avec beaucoup d'autres chansons interprétées par lui, interprétées par vous, interprétées par d'autres artistes d'ailleurs d'autrefois, dans un coffret qui vient de sortir chez Marianne Mélodie, « Quand papa chantait, les souvenirs de Serge Lama en 50 chansons », et votre père évidemment y est très présent. Je notais d'ailleurs, on entendra tout à l'heure votre père dans les premiers disques qu'il a fait dans les années 50, alors il y a un autre point commun entre vous, c'est qu'on retrouve le même musicien, le même compositeur, chef d'orchestre, Émile Stern, qui avait accompagné votre père en 52 dans ses premiers 45 tours, et avec qui vous avez travaillé.
Bien sûr, j'ai commencé à travailler avec Émile, ça a été mon premier...
C'était un grand musicien,
dans la vie de la chanson. Des succès comme Tire l'aiguille, comme... Un oranger sous le ciel irlandais, Il avait beaucoup de succès, puis moi, il avait des petits doigts, c'était un pianiste extraordinaire, des tout petits doigts comme ça qui couraient sur le piano, c'était merveilleux, et on travaillait comme ça, puis il était très très surpris de ma capacité à écrire beaucoup, parce qu'il travaillait avec Eddie Marnay.
Oui, qui était son parolier habituel. Hein,
c'est habituel, ça. Et il me disait, si Eddie vous voyez, il se tirerait une balle dans la tête.
Ah oui, on va y revenir. Hein. 5000 chansons, vous en avez écrit, vous en avez enregistré 400, mais vous en avez écrit 10 fois
oui,
plus.
Oui, bah, j'écris tous les jours, encore aujourd'hui, c'est comme ça, c'est une manie presque.
Mais je propose donc, voilà, après cette évocation d'Émile Stern, qu'on remonte un peu plus loin dans le temps. On va remonter en cette année où vous avez aviez moins un an et où cette chanson passait sur toutes les radios.
Ah, qu'il doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous, où la serenade d'âtre solitaire s'envole bruissonnant vers le
Serge Lama, mon invité, avait moins un an puisqu'il est né en 43 et que le film est sorti en 42 avec cette chanson chantée par Daniel Darieux, Le Premier Rendez-vous. Mais ça évoque pour vous un souvenir précis, Serge Lama ?
Mais c'était une époque où les chansons duraient très longtemps. Et elles duraient 10 ans, 15 ans. Il y a des gens qui ont fait des carrières sur deux chansons. Hein.
Ah oui, oui.
Tino a fait sa carrière avec pas grand-chose. Hein. Très peu de chansons qui ont, il y a peut-être une quinzaine de tubes, ben, ouais. C'est pas.
Mais on les reprenait d'une année sur l'autre et ça restait
ça,
des tubes.
Et ça durait. Et moi, j'ai été donc bercé par cette merveilleuse comédienne qui était Darieux, ouais. Qui était délicieuse, qui était ouais. En plus dirigée par De Coin dans un film qui a été un succès populaire extraordinaire et beaucoup grâce à cette chanson. Qui a été répandue sur toutes les ondes et qui a révélé une chanteuse.
Voilà, voilà, une chanteuse et pas seulement une actrice. Alors ça, c'est donc pendant la guerre que vous avez vu le jour, Serge Lama. Et donc, on revient à votre père, puisque c'est un petit peu notre sujet aujourd'hui. Quand papa chantait, il chantait déjà, j'imagine. Et en même temps, il est entré au conservatoire de Bordeaux, où vivait la famille, relativement tard. Il avait déjà 27 ans, je crois.
Oui, il est rentré au conservatoire de Bordeaux. Enfin bon, il est sorti quand même premier du conservatoire et normalement, il aurait dû être accueilli les bras ouverts au théâtre de Bordeaux.
Dans la troupe du Grand Théâtre.
La troupe du Grand Théâtre de Bordeaux, qui était une troupe très connue, très, oui. Et qui aurait été un tremplin qui lui aurait permis de, et j'ai jamais compris là ce qui s'est passé.
Ouais.
Très franchement, c'est pas une question de mémoire, c'est une question, ça a jamais été très clair. Pourquoi il a pas été pris, ce qui était, comme au Conservatoire de Paris, on prend les premiers et les deuxièmes sont immédiatement engagés à la Comédie Française, par exemple.
Ouais,
c'était
vrai.
Pareil. Et là, pourquoi ne l'a-t-il pas été? Ben, ça restera un mystère pour moi.
Parce qu'il avait déjà été remarqué pour sa très jolie voix, il avait été poussé dans ce sens-là, lui-même n'avait pas eu une enfance très heureuse, il avait envie d'être artiste et finalement il s'est lancé un peu à corps perdu. Et donc finalement, comme ça marchait pas à Bordeaux, ils ont décidé avec votre mère de monter à Paris en 1950.
Hein. Bah de forcer la chance en fait,
ouais.
il a fait le grand pas qu'ont fait beaucoup de provinciaux, dont moi. Et dont d'autres. Hein.
Oui, parce que vous êtes resté à Bordeaux pendant que vos parents montaient à Paris d'abord.
Oui,
dans chez votre grand-mère.
Un temps, oui, chez ma grand-mère pendant 2 ans ou quelque chose comme ça, 1 an et demi. Je n'ai pas été beaucoup à l'école, je pense, pendant cette période-là, d'après mes souvenirs. Et oui, mon père, il a tenté sa chance à Paris. Quand ils ont pensé qu'ils étaient aptes à pouvoir faire venir un enfant dans le tout petit studio qu'ils avaient dans un hôtel, un meublé, on appelait ça à l'époque un meublé, bon, dans la rue du Vivier, qui est juste justement à côté, dans le quartier du 7e. Et là, il a tenté sa chance, mais bon, la chance ne lui a pas souri.
Il faut dire que quand il était encore à Bordeaux, n'étant pas pris au Grand Théâtre, il a quand même beaucoup chanté dans des troupes qui sillonnaient à l'époque un peu toutes les petites villes, les moyennes villes, notamment tout le répertoire d'opérettes. Hein, justement, je citais Véronique tout à l'heure, La Veuve, il a chanté tout ça.
Oui, assez, Fifi.
Fifi qui vous a beaucoup marqué enfant, je crois.
Oui. Je me suis dit, parce que j'étais très petit là, hein, je devais avoir 5 ans, un truc comme ça, et je m'étais réveillé en me disant que je ne devais pas oublier ce jour, que c'était le plus beau jour de ma vie.
Ah, voilà.
Je m'étais dit ça.
Ah, ouais.
Et je n'ai jamais oublié, moi qui oublie plein de choses, Lormont, déjà une banlieue de Bordeaux, je me souviens de Lormont.
Ouais.
Et ça m'est resté comme une flèche marquée. Et j'ai vu mon père qui faisait Hardimédon. Le nom l'indique.
Mais c'est la pièce qui vous a plu autant que la musique. C'était le... l'intrigue amoureuse.
C'était aussi de voir mon père, vous savez, un enfant qui regarde son père dans la lumière. Enfin, ça m'a touché pour le restant de mes jours, vous voyez.
Voilà, sauf qu'il était toujours sur scène entouré de quantités de jolies femmes, et ça plaisait pas beaucoup à votre mère, mais on va y revenir. Il y a une personne qui est venue souvent dans cette émission qui a quand même encore, mis à part vous, entendu votre père chanter à Bordeaux avant 1950, ça doit être Marcel Amont.
Tout à fait, Marcel, oui, comme il dit souvent, ton père, c'était une star, il me dit Marcel. Et à Bordeaux, c'est tout le monde pensait qu'il allait devenir... Et c'est vrai que tout le monde pensait ça, et puis non, ça ne s'est pas fait.
Ça ne s'est pas fait.
Et personne ne comprend.
Alors, on va retrouver votre père dans un autre titre qui fait partie de ce double coffret « Quand papa chantait ». C'est un titre enregistré en 1952 avec l'orchestre de Daniel White. Et j'ai trouvé très jolie cette chanson qui s'intitule « Fragile ».
Oui.
Fragile comme un parfum d'azur, comme les premières fleurs en avril, comme un mirage. Fragile, vos yeux sous vos longcils font dans mon pauvre cœur si docile tant de ravages. Je vous avais cette nuit près de moi, vous étiez tout à coup si légère que je croyais ne tenir dans mes bras qu'un oiseau, qu'une image éphémère. Fragile, ce serait si facile de briser mon bonheur, si fragile que j'en ai peur. Lorsque je vous ai rencontré, j'osais à peine vous parler. Je me sentais intimidé, trop grand, trop bête. Sans jamais vous avoir connu, presque aussitôt j'aurais voulu passer à votre cou menu une étiquette. Fragile comme un parfum d'azur, comme les premières fleurs en avril, comme un mirage. Fragile, vos yeux sous vos longs cils font dans mon pauvre cœur si docile tant de ravages. Je vous avais cette nuit près de moi, vous étiez tout à coup si légère que je croyais ne tenir dans mes bras qu'un oiseau, qu'une image éphémère, fragile. Ce serait si facile de briser mon bonheur si fragile que j'en ai peur.
Il y avait une naïveté dans ces chansons de cette époque-là qui est très touchante.
Très touchante, Serge Lama.
Qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, cette naïveté, cette grandeur même.
Voilà, c'est votre père, Georges Chauvier, donc on peut dire qu'il est chanteur de charme.
Hein, c'était ce qu'il était.
C'était ce qu'il était.
Ah oui, oui.
On
oui,
pourrait
oui,
rapprocher
fait,
un peu d'André Claveau.
Tout à fait. C'est d'ailleurs un peu le problème, c'était qu'André Claveau était sur la même ligne, mais qu'il était parti avant.
Voilà,
il avait le même emploi, comme on disait, pour les comédiens.
Parce que donc votre père, donc après des débuts de chanteur de charme, justement très remarqué et apprécié et populaire à Bordeaux, son échec donc pour entrer dans la troupe, monte à Paris pour refaire sa vie, et ça va pas très bien se passer, mais malgré tout il a fait ses disques, donc c'était pas non plus un échec total, puisqu'il a enregistré quelques 78 tours.
Oui, il y avait des gens qui croyaient en lui
et
qui essayaient de faire des disques avec lui. À l'époque, les disques, c'était pas comme aujourd'hui.
Ouais.
Maintenant, on fait des disques en veux-tu, en voilà. À l'époque, c'était quand même un peu plus compliqué. La grande chance qu'il a pas eue, et là, on peut dire que c'est une malchance, c'est que il était sur les rangs, ils étaient plus que deux, pour chanter la chanson du train sifflera trois fois.
Mais bien sûr.
Et,
et c'est John Williams.
Et c'est John Williams qui a hérité de la fameuse chanson.
Qui est devenue
si toi aussi, tu m'abandonnes.
Ah, voilà.
Oui. Toi, mon unique amour.
Votre père, en tout cas, Serge Lama, a essayé un peu tout ce qu'il pouvait essayer à Paris dans sa carrière de chanteur. Notamment, il a beaucoup chanté au Petit Théâtre des Capucines, qui montait des opérettes et des revues.
Oui, tout à fait. Il a joué les chansons de Bilitis.
Voilà.
Ce dont je me souviens, c'est que tous les dimanches, évidemment, j'allais retrouver mon père avec bonheur dans les coulisses, respirer cette odeur de maquillage, puis cette odeur de femme aussi, qui était vraiment et puis toutes les m'adoraient, elles venaient, viens mon chéri, viens, c'était merveilleux, quoi, c'était... Pour moi, ça a été une période très, très heureuse tant qu'il chantait, mon père.
Vous étiez monté donc à Paris rejoindre vos parents. Vous viviez, vous le dites très, très simplement, on pourrait dire pauvrement dans un sens, mais c'était pour vous...
Modestement est le bon terme. C'est-à-dire que on n'avait pas les moyens.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs le sujet des scènes de ma mère tous les jours. Et
puis ça se disputait beaucoup, beaucoup, parce que votre mère, au bout d'un moment, a voulu persuader votre père finalement de faire autre chose, pour gagner de l'argent.
Oui, elle le faisait la nuit en hypocrite, parce qu'elle ne le faisait pas devant moi.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais elle ne le faisait pas devant moi. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Tous les soirs, il était couvert à cette heure-là que t'arrives. Il y avait toute la jalousie qui était là en plus de ça. Et puis, elle l'a tellement découragé qu'un jour, j'ai eu mon père en larmes dans mes bras et qui m'a dit qu'il allait abandonner le métier. Et il a pleuré dans mes bras.
Vous avez voulu le persuader de quitter votre mère.
Hein. Oui, tout à fait. Je lui ai dit, mais quitte, on va se débrouiller. Quitte, tu donneras ce que tu peux. Mais oui, mais ta mère, elle ne peut pas. Mais comment elle ne peut pas ? Elle à telle époque, elle a travaillé, puisqu'elle était avec... C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ouais. Ils étaient boulangers à Bordeaux. Et elle ne peut pas... boulanger, ils servaient, quoi. Elle pouvait tout très bien retrouver une place de boulangère ou une place de... Voilà, c'était pas du tout un problème. Surtout débarrasser un peu d'un homme dans la maison, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais rien n'était simple avec ma mère.
C'est lui qui est devenu représentant dans les cafés-tabac, finalement. Il a renoncé à sa carrière. D'où, j'imagine, l'importance qu'a été ce retour à la musique grâce à vous, alors que vous étiez déjà célèbre en 1981. Avec votre père. Votre mère était toujours là quand
Oui, bien sûr.
Elle était contente de voir son mari remonter sur scène 30 ans après.
Ça lui importait peu, là, oui. Elle a été ni contente ni pas contente. Ma mère, on ne savait jamais comment, comment s'y prendre, ni comment prendre ce qu'elle disait non plus.
Et vous lui avez consacré aussi quelques chansons, hein, à elle, à sa personnalité, qui vous a évidemment beaucoup marqué également.
Cette, Maman Chauvier, notamment.
Maman Chauvier, oui, voilà. Alors, on va retrouver votre père. Là, on l'a entendu en 1952. Alors, on fait un saut de 30 ans, justement, en 1981, l'année où vous avez fait ce disque avec lui, dans une chanson que vous aimez bien, je crois, qui s'appelle « Julie ».
Oui. « N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe. » C'est une chanson que chantait Marcel Amon dans les années 50 et avec ces chansons charmantes qu'il avait, Marcel.
De Maurice Vidalin et Jacques Datin.
N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe, quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers au tendre flutéau. Et je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg, de dire aux pêcheurs, je suis une truite, me pêche qui veut m'apprendre l'amour. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guillotin avant de prendre époux. Avec Ferdinand, vous n'êtes plus d'âge à vous trémousser folle sur ses genoux, en lui agaçant le bout des moustaches pour voir si ça pique ou bien si c'est doux. Et quand vous sentez son trouble, Julie, ne demandez pas d'un air innocent, cousin, dites-moi si je suis jolie et si je fais plus que mes 18 ans. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guillotin avant de me rendre époux. Un matin, Julie, blanche à la chapelle, devant la famille, vous direz ce oui, qui vous livrera, timide gazelle, aux tendres assauts de votre mari. Dès le lendemain, vous serez tranquille, je ne serai plus là pour vous gronder. Vous pourrez alors, femme d'imbécile, prendre autant d'amants que vous le voudrez. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie, en attendant le jour qui ne saurait tarder de votre liberté.
Mais quand on voit ce que Vidalin, comment Vidalin écrivait, oui, parce que c'est un texte magnifique.
Magnifique, Serge Lama,
remarquable,
oui,
avec plein de petites choses qui n'ont pas l'air, mais qui disent beaucoup de choses. La liberté des femmes, notamment.
Oui.
C'est très moderne dans l'écriture.
Et un arrangement très moderne de votre ami Roger Loubet, presque rock dans le
rock. Oui,
d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'était votre père, Georges Chauvier, en 1981. Vous-même, d'ailleurs, vous vous appelez Serge Chauvier. Je ne sais pas comment Chauvier est devenu Lama.
C'est devenu Lama parce que j'entendais toujours qu'on disait que c'était un mauvais nom. Georges Chauvier, c'était, oui, pas facile à prononcer. Alors, j'avais le même problème avec Serge Chauvier. Et,
ah oui,
et je me suis dit, puisque tu sais ça, pourquoi te mettre une pierre de plus dans les pattes? Alors, j'avais 14-15 ans, j'ai décidé de...
Mais pourquoi le Lama?
Parce que
un rapport avec l'animal?
Non, j'ai essayé plusieurs noms, et puis un jour, comme rien ne me plaisait, je me suis voué au dictionnaire, J'ai fermé les yeux, j'ai tapé sur une page et la main m'est tombée sous la main. J'ai trouvé que ça allait bien, ça sonnait bien. Je l'écris en rouge, en bleu, en de toutes les couleurs que je pouvais imaginer sur un fronton de music hall. Et surtout celui de l'Olympia qui était rouge.
Parce que c'était évident pour vous à 14-15 ans que vous alliez vous aussi devenir chanteur, comme votre père?
Oui. Ma décision a été prise à Lormont. Quand j'avais 5 ans.
Ah oui.
C'est qu'intérieurement, le travail a commencé à se faire et c'était. Il n'y avait pas de retour.
Il n'y avait pas d'hésitation.
De retour possible, oui.
Mais en même temps, vous vous êtes distingué de votre père très vite puisque lui avait été vers le répertoire classique ou semi-classique avec l'opérette. Vous n'avez jamais ambitionné de suivre cette voie-là. Vous avez voulu aller plutôt d'emblée vers la variété.
Oui, parce que d'abord, la variété était devenue à la mode, très à la mode. Il ne faut pas oublier que 53, c'est Brassens, c'est Beco, c'est tout ça qui arrive. Et puis Brel, qui était déjà sur le four, il est sorti en 58 pour le public avec Quand on a que l'amour, mais il était déjà là. Et moi, j'écoutais tous ces grands chanteurs merveilleux et j'avais envie d'écrire des chansons comme eux. Donc, je m'y suis mis et puis j'y suis arrivé.
Voilà, alors écrire tous les jours, ça a été, on peut dire, l'activité centrale de votre vie. J'irais peut-être plus encore que chanter, vous montrer, etc. C'est écrire comme le pain quotidien.
Qu'à une époque, je faisais les deux. Hein.
Oui.
À une époque, vous savez, il y a une année, j'ai fait plus de 300 concerts. Hein.
Mais vous avez commencé à écrire à l'âge de 11 ans, je crois, 12 ans.
Oui, 11 ans et demi, 12
des
ans.
Des textes
oui.
Qui seraient peut-être des chansons ou pas?
Qui étaient destinés à être des chansons, mais qui, comme je lisais beaucoup de poèmes, beaucoup de poètes, même des poètes que je ne comprenais pas, mais peu importe, je les ressentais.
Ouais.
Mallarmé, par exemple.
Que vous avez chanté plus tard, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Tout
c'est
à fait. Vous savez,
vous
savez beaucoup de choses sur moi. Parce que ça, c'est pas une information que tout le monde a. Et c'est vrai que Mallarmé.
La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres.
Et j'ai lu tous les livres.
Voilà. Mais donc, vous écriviez sans arrêt. Ça a été pour vous un exercice, je dirais, quotidien de toute votre vie. Écrire, vous dites, c'est écrire tous les jours.
Oui, je pense qu'il faut écrire tous les jours, sinon on perd, comme tous les métiers, on perd la patte, on perd l'habitude d'un métier si on ne l'exerce pas quotidiennement. Oui, j'ai fait ce que vous dites.
Et alors, il y a donc maintenant, pas très longtemps, en 2013... Vous avez sorti un album dans lequel vous avez enregistré pour la première fois des vieux textes qui datent de votre prime jeunesse. Et alors, ça m'amuserait d'en écouter un que j'ai trouvé très joli, qui s'appelle Dominica.
Oui.
C'est quoi? C'est un texte que vous avez écrit à quel âge, alors, finalement?
Oh, 13 ans, 14 13 ans. J'étais au lycée Michelet, je m'en souviens très bien, parce que la Dominica, elle existait.
Oui, c'est pas Dominique A, le chanteur. Hein.
Non, c'est Dominique A.
Voilà.
Dominica, tout pour plaire.
Voilà, et donc c'est une très jolie chanson que vous avez quand même choisi de réenregistrer ou d'enregistrer pour la première fois 50 ans après.
C'est-à-dire que c'était les chansons dont je me souvenais, parce qu'il y avait des chansons dont je ne me souvenais pas. Je me souvenais de « Pauvre poète, tu fais la quête aux portes, tu ne recueilles qu'une ou deux feuilles mortes ». Ça, c'est un truc dont je me souvenais, mais puis bien sûr « Dominica », parce que on n'oublie jamais ces choses-là.
Voilà.
J'ai perdu mes Amériques pour une tête à chapeau qui s'appelle Dominique, mais que j'appelle le Domino. Elle me lance des piques, me dit t'es pas assez beau pour goûter à mon col chic, t'es qu'un minable Pierrot. Dominica, 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 tout pour plaire. Dominica, 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 tout pour moi. J'y ai dit j'aurais du fric, l'hacienda et les troupeaux. Je ferai une fabrique et de diamants et de lingots. C'est toi qui tiendras la trique, le pistolet, le couteau. Je serai ton domestique, ton esclave, ton gaucho. Dominica, 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 tout pour plaire. Dominica, 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 tout pour moi. Rien n'y fit ma Dominique, est tombé sur un zéro. T'es beau comme un texte antique, il ne lui manque que les mots. Je balance mes as de pique sur cet as de cœur falot.
Malheureusement Dominique le prend pour Marlon Brando. Dominica, Dominica, Dominique a tout pour plaire. Dominica, Dominica, Dominique a tout pour moi. Désespéré Dominique, j'ai remis ma barque à l'eau. Je suis parti en Afrique, changer la couleur de ma peau. Ma mulâtre est hystérique, elle est toujours sur le dos. Elle n'aime que moi, c'est tragique, j'ai maigri de 20 kilos. Dominica, 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 tout pour plaire. Dominica, 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 tout pour moi. Dominica, Dominica, il n'y a qu'un exemplaire. Dominica, Dominica, hélas, il n'est pas pour moi. Dominica, 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 tout pour plaire. Dominica, 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 tout pour moi.
Enregistrée à 70 ans, écrite à 13 ans, voilà cette chanson.
Oui, oui, bah c'était rigolo pour mes 70 ans de rendre hommage à cet apprenti auteur de chansons que j'étais, évidemment, 11 ans et demi, 12 ans, on n'écrit pas comme on écrit 10 ans ou 15 ans plus tard.
Alors, en tout cas, écrire, vous l'avez fait toute votre vie. Et il y a quelques années, d'ailleurs, Serge Lama, vous avez publié hein, chez Flammarion un gros volume, l'intégrale de mes chansons, celles du moins qui ont été enregistrées, parce que on l'a compris, il y en a 10 fois plus à peu près que vous avez écrites. Mais vous êtes de ceux qui considèrent, je sais que c'est un vieux débat, hein, que la chanson, ou vos textes de chansons, en tout cas, sont des textes qui sont faits pour être chantés, mais qui peuvent aussi être lus, que c'est aussi de la poésie.
Oui, je ne pense pas que c'est de la poésie. Hein. Non, je ne pense pas que la chanson, c'est un genre. La chanson, c'est un genre, il y a des paroles. Autrefois, on appelait ce que je fais, on appelait ça parolier. Oui. Et je trouve que c'était la bonne appellation, parce que dire qu'on est poète, non, bien sûr qu'on a des visions par moments, des choses qui peuvent être un peu poétiques.
On fait des rimes.
Oui, enfin, on fait plus que des rimes des fois, justement, mais ça, c'est quand même, moi je sais bien que je ne suis pas Brassens, je sais bien que je ne suis pas Brel non plus, pas plus que Béart d'ailleurs, pas plus que... Non, je suis un chanteur populaire, je suis un chanteur qui s'adresse à la France, aux gens, aux Français. J'ai pas essayé de faire des carrières, même Aznavour voulait que je traverse l'Atlantique. Il me disait, oui. Vous verrez là-bas, c'est formidable, où vous serez, vous, un mec comme vous, vous allez devant. Mais j'ai jamais écouté Charles, et pourtant Dieu sait que je l'écoutais sur tout ce qu'il me disait, parce que c'était un conseiller avisé, hein, c'était un type formidable, Charles, pour moi. Et voilà.
Mais vous parlez beaucoup dans la préface de ce livre, Un homme de parole, avec les textes de vos chansons aussi, des liens très, très subtils justement entre la musique et le texte dans la chanson. Vous expliquez par exemple que vos chansons ont globalement plutôt une couleur souvent assez sombre.
Oui.
Et que parfois, c'est la musique qui les a vraiment rendus populaires en leur apportant une espèce d'énergie que quand on se contente de les lire, est peut-être moins au premier plan où ça devient beaucoup plus mélancolique.
Tout à fait, mais c'est plutôt mélancolique. D'ailleurs, oui, en général. Et les petites fans de Pigalle étant l'exemple.
C'est une chanson mélancolique, les petites fans
de Pigalle. Absolument. Au départ, j'avais écrit ça pour un ami qui. Elle était partie et donc il était très malheureux. Il était auteur aussi. Je ne veux pas dire son nom parce que tout le monde le connaît. Ouais. Et voilà. Et à la suite de ce qu'il m'a raconté, il me dit j'ai été aux petites fans de Pigalle, que j'ai été voir les. Alors moi, je pouvais pas dire voir les. Vous voyez, alors j'ai trouvé une formule, les petites fans de Pigalle. Et à partir de là, je suis parti. Mais c'est, au départ, c'était une chanson un peu amère.
Voilà, c'est ça.
Et c'est Datin. Qui, voilà, d'un Latin, coup de pied de sa musique, a fait bondir cette chanson dans des chansons à boire, presque.
Voilà, et j'ai un autre exemple, une chanson que j'adore, Les Glycines, qui est quand même une chanson assez violente. Vous expliquez que souvent le public bat des mains pendant la chanson, comme si c'était une chanson joyeuse, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Ah ben c'est loin d'être le cas, même. C'est le contraire. Mais ceci dit, quand il tape des mains dans celle-là, je
vous calmez le jeu.
Je fais un geste comme ça, parce que c'est pas une chanson qui est faite pour être...
Et puis alors il y a, vous expliquez ça, dans cette préface qui est très intéressante, c'est vraiment presque une réflexion générale sur l'art de la chanson, il y a les moments, ce qui fait les très grandes chansons, où il y a l'adéquation absolue, et on va en écouter une, puisqu'on ne l'avait pas écoutée la dernière fois que vous êtes venu, parce que c'est un de vos plus grands tubes, c'est « Je suis malade », avec Alice Donna, là ça colle parfaitement, vous pouvez nous rappeler de quoi est née cette chanson ?
Ben d'abord, j'ai fait l'Eurovision en 71, je crois, et j'ai échoué lamentablement. Oui. J'étais 13e ou 14e, mais la grande chance que j'ai eue, parce que je ne pouvais pas écrire mon texte, j'étais obligé de prendre une chanson écrite par d'autres. J'ai eu la grande chance, en revanche, de rencontrer Alice.
Vous connaissiez pas
On
avant,
se connaissait
non,
très peu.
Très peu oui.
On s'était rencontrés une fois à une signature, un truc comme ça, mais on se connaissait très peu. Et à partir de l'Eurovision, là, on s'est bien marré, on a lié vraiment une vraie amitié. Et la première chanson, quasiment, qu'on ait écrite, c'est « Je suis malade ». C'est incroyable, la fusion de ces deux générosités, j'allais dire. Parce que la musique d'Alice est toujours très généreuse.
Ouais.
Elle est plus masculine, quand Alice, que ne l'est Yves. Yves est féminin et
Yves,
Alice...
C'est, Yves, c'est votre autre musicien, on va
c'est
en parler
ça,
tout à
c'est
l'heure.
Ça.
Hein, Yves
c'est Gilbert. C'est ça, et c'est mes deux. Et elle a vraiment une force, une assise au piano. Comme on dit dans le métier, elle sait vendre.
Mais le texte, il venait d'où, ce texte de « Je suis malade » en vous, il évoquait
quoi ? Il venait de le grand amour que j'avais pour Michel à l'époque et qui était parti, pas pour me quitter, mais elle était partie avec son mari, elle pouvait pas faire autrement, avec son enfant, c'était difficile à gérer, elle avait été obligée de partir. Et donc, j'étais tellement malheureux que... Alors, j'avais essayé plusieurs fois d'écrire des textes avec « Je suis malade, je suis malade ». Et là, je dis « Alice, écoute, j'arrive pas à trouver. Je te donne « Je suis malade », tu m'écris la musique et au refrain, tu me mets « Je suis malade ». Et elle est revenue, effectivement, un jour, avec « Ah, bah tiens, me dit, on attendait quelqu'un. Tiens, j'ai ta chanson, là, « Je suis malade ». Comme ça, quoi. Et elle me joue ça, et elle fait « La, 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 je suis malade, la, 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 la ». Et moi, au fil de la plume, vraiment, au fil de la plume, j'ai écrit...
Le reste des paroles.
Le reste des paroles. Et on peut dire que j'ai dû changer deux, trois phrases, mais ça s'est borné à ça, c'était fait tout de suite.
Et il y a eu un troisième larron, si on peut dire, qui a encore ajouté peut-être quelque chose en plus, ça a été aussi Jean-Claude Petit.
Oui, ah ben ça, Jean-Claude Petit, qui est à l'origine de ma réussite en tant que vendeur de disques.
Voilà.
C'est Jean-Claude qui a vraiment trouvé la bonne couleur pour faire, voilà.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade.
Une prise.
J'allais vous poser la question, Serge Lama, combien de prises?
Une prise.
Pour ce magnifique enregistrement.
C'est incroyable.
C'est tout d'un bout, hein. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de. Et en plus, il y avait l'orchestre, on a du mal aujourd'hui à imaginer, mais l'orchestre était là tout entier. Ouais. Et moi, j'étais barricadé derrière des.
Pour qu'on entende. Des panneaux,
pas,
oui.
Hein. Pour qu'on n'entende pas trop.
Ouais.
Et j'ai fait une prise, et puis je suis arrivé, ils m'ont tous fait.
Et c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Bon, voilà. Ça fait partie, en tout cas, de la mémoire collective. En plus, voilà, c'est un sujet où on peut tous se retrouver. Mais je crois que le producteur, lui, était pas enthousiaste au départ. Il disait, ça va plomber les gens. Personne ne va acheter une chanson qui s'appelle Je suis malade, hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le grand patron de Philips de l'époque, ou de Phonogram, je sais plus comment ça s'appelait, qui me dit, mais c'est pas possible. On peut pas titrer un disque Je suis malade. Comment voulez-vous que les gens achètent un disque qui s'appelle Je suis malade? Ils l'achèteront, que je vais. Et là, j'ai une prise de tête avec mon patron, hein. Meyerstein, qui était au-dessus et qui me connaissait un peu d'instinct, il a dit « laissez-le faire ».
Voilà, et parce que vous avez donné effectivement le titre de cette chanson à l'album tout entier, qui en plus est un album incroyable en 1973, qui est une collection de tubes avec l'orchestre de Jean-Claude Petit, mais il y a justement Une île, Les glycines, enfin je ne sais plus.
Vous savez, dans la carrière des artistes, il y a une convergence à un moment donné.
À un moment,
quand,
oui.
Quand
ouais.
Ça veut, regardez Bruel, il a le disque qui est le disque, quoi,
voilà, c'est
Casser la voix, c'est le disque.
Et puis, Les petites femmes, c'est encore dans le même disque, de Pigalle aussi, tout ça, c'est extraordinaire.
Oui, c'est comme ça, il y a tout d'un coup, il y a huit chansons majeures dans ce disque-là.
Un mot encore, ça m'amusait à propos d'Alice Donna, votre amie Alice Donna. Comme vous, elle était passée par le petit conservatoire. Elle, ça s'était bien passé. Moi, quand j'étais petit, j'avais un peu peur de Mireille. Je trouvais qu'elle avait l'air méchante. Puis maintenant, tout le monde fait son apologie, à juste titre aussi, d'ailleurs souvent dans cette émission. Mais avec vous, elle n'a pas été tellement sympa. Hein.
C'est-à-dire que j'avais fait un... C'était un hasard tout à fait particulier. J'étais rentré du service militaire et puis j'avais... Celle qui mettait en musique mes pauvres musiques que je faisais moi-même, ouais. Elle mettait les notes, elle écrivait et elle m'accompagnait. Et elle me dit, il y a un truc qui se fait à Bagneux, un concert avec tous les gens du petit conservatoire, mais moi je peux t'imposer, tu peux venir, tu peux chanter.
Ouais.
Et je chante et tous les mecs du petit conservatoire disent à Mireille, là on a vu un mec, Et puis... Je chante ma chanson phare de l'époque à 15 ans.
Voilà. Un de vos premiers disques d'ailleurs, hein. J'ai 45 tours.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et Mireille me dit, je ne vois pas l'intérêt que vous portent vos camarades. Eh bien, écoutez, madame, dans quelques années, vous verrez, et je suis parti.
Ouais, c'était pas quand même.
J'étais comme ça, moi. À l'époque, il fallait pas me chatouiller. J'étais poli. Eh bien, madame, donc, vous verrez.
Alors, évidemment, on va aussi en parler, puisqu'on a la joie d'être avec vous à nouveau aujourd'hui, Serge Lama. Sont arrivées ensuite, après tous ces succès, les années Napoléon, 10 ans de votre vie, hein, et c'est dans l'actualité plus que jamais, avec vos deux complices qui sont Yves Gilbert et Roger Loubet. Peut-être justement redire un mot. Dans votre livre sur vos chansons, vous dites que Alice Donna est votre Marguerite Monod et que Yves Gilbert est votre Joseph Cosma, ce qui était un bel éloge à ces deux musiciens qui ont accompagné toute votre vie. Hein.
Oui, parce que Yves Gilbert a écrit des chansons qui sont pas des tubes à la première écoute. Il y a Une île, d'aventure en aventure, c'est Zizi Jean-Mer qui l'a créé.
Oui,
qui l'a créé. Et c'est quand même une chanson qui a marqué un peu les radios et tout ça, mais oui, j'avais du mal, quoi.
Et mais il faut dire que le jeune Yves Gilbert, que vous aviez déjà rencontré, est venu vous voir après votre accident en 65, et puis tout de suite a commencé à travailler avec vous, et ça s'est jamais arrêté.
D'emblée, oui, il est rentré dans ma vie, il est rentré dans la chambre.
Voilà, c'est ça. Et puis vous étiez en morceaux.
Et j'étais en morceaux, puis j'étais énorme, parce qu'il fallait que je mange beaucoup pour faire du cal, pour que ma jambe, enfin bon, bref, des détails très complexes de mon corps. Et Yves, une collaboration qui, on a écrit les Ballons Rouges tout de suite, voilà. On a écrit... Voilà,
et ça continue.
C'est toute une flopée de chansons qui sont des tubes aussi, mais qui ont été des tubes après.
Voilà. Et voilà. Donc, vous avez aussi donc signé avec vous cette grande comédie musicale, Napoléon. On va écouter tout de suite deux extraits. D'abord, un duo de Napoléon et Joséphine avec Christine Delaroche, Frappe, frappe, frappe. Et puis tout de suite après, parce que c'est ça l'anniversaire qu'on fête cette année, évidemment, Napoléon à Sainte-Hélène.
C'est à Joséphine Rose,
frappe, frappe, frappe,
qui cogne à ta porte close,
frappe, frappe, frappe.
J'entends derrière la porte ton cœur qui fait les 100 pas. Ouvre, je suis comme morte,
je n'ouvrirai pas.
C'est la petite main fine,
frappe, frappe, frappe,
de ta pauvre Joséphine,
frappe, frappe, frappe.
J'entends derrière la porte tes yeux qui pleurent tout bas. Ouvre, ouvre-moi la porte,
je n'ouvrirai pas.
Je ne suis pas si méchante,
frappe, frappe, frappe,
que tes frères te le chantent,
frappe, frappe, frappe.
Pense à toutes ces nuits folles qui nous attendent déjà. Ouvre ta petite créole,
je n'ouvrirai pas.
Hélène, mouette, mouette, goéland, goéland, Sainte-Hélène, fête, fête, la charité à un enfant. J'ai 14 ans, j'ose être aimé, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
La vague vient, la vague part, le bateau du courrier ramène ma mémoire de Sainte-Hélène, mon corps se sera pour plus tard. Je suis étendu sous l'étendard. Sainte-Hélène.
Voilà, c'était deux moments de la vie de Napoléon. Là, ici, en 1821, Sainte-Hélène, et puis auparavant avec Joséphine, cette œuvre qui a occupé 10 ans de votre vie, Serge Lama.
Oui, qui a été on peut dire un triomphe.
Oui.
C'est mon triomphe de ma vie.
Plus encore que le Palais des Congrès, les grandes.
ça a été énorme, évidemment. Oui. Mais je veux dire que tout d'un coup, j'ai vu des portes s'ouvrir qui étaient entrouvertes. J'ai vu. Enfin, ça a été un triomphe. On peut pas expliquer. C'est comme ça.
C'est une comédie musicale, on peut dire. Est-ce que c'était pas d'ailleurs une façon de marcher aussi un peu, d'une certaine façon, sur les traces de votre père, qui avait tant aimé l'opérette, etc., que de créer un grand spectacle musical et de l'interpréter?
Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai fait Napoléon. Vraiment, je suis d'une sincérité.
C'était pas une passion non plus pour Napoléon depuis toujours.
Non, pas du tout. Je voulais faire le Châtelet, qui était un théâtre, et pour la faire courte, le directeur m'a dit que il pouvait me prendre 3 jours, 4 jours, mais 3 mois, 4 mois, 5 mois, il pouvait pas. Sauf si je faisais une comédie musicale. Je sors du Châtelet, et tout d'un coup, comme dans un rêve, je dis à mon Eddie Marouani, je lui dis, mais je vais faire Napoléon Bonaparte. Mais c'est sorti comme un rêve. Et j'ai couru chez mon ami Marcel, qui était historien, et je lui ai demandé, donnez-moi le bouquin le plus simple sur Napoléon. Ouais. Il n'a pas cherché à comprendre, il m'a donné un livre, c'est Bordenov, je me souviens, Bordenov, qui avait écrit ce livre, et c'était avec ça j'ai pu commencer à écrire, et j'ai pu arrêter.
Et vous avez fini par l'aimer, le personnage, ou c'était...
Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est issu d'une époque violente. On ne peut pas juger avec des yeux de c'est pas Hitler, vous voyez. C'est pas Hitler, c'est pas Staline, c'est pas... Non, c'est un militaire, c'est hélas, on peut dire, voilà. On peut dire c'est un militaire, hélas. Parce que il était tellement intelligent quand il a vraiment pris la France en main pendant 4 ans, où il n'y avait pas eu de guerre, il a fait de la France ce qu'elle est
aujourd'hui encore,
et il a tout. On aurait souhaité qu'il en reste à là, quoi. La révolution était terminée, après ça aurait été de la politique, mais la politique ça l'a intéressé moins que la guerre, et les Anglais le poussaient à la guerre tout le temps.
Voilà. Et donc vous les avez fait aussi, il faut dire, votre Napoléon. C'est un Napoléon qui ressemble un peu à Serge Lama aussi, hein. D'une chanson à l'autre, c'est vous qui parlez largement autant que Bonaparte ou Napoléon.
Oui, parce que je le ramène à l'enfance, par exemple dans la chanson sur Sainte-Hélène, le ramène à l'enfance où j'ai 14 ans, je veux être aimé, s'il vous plaît. Ça, c'est moi. Encore que lui aussi.
Ouais.
Lui aussi avait un côté... Il avait peur des femmes et il s'est battu aussi.
Mais pourquoi 10 ans de votre vie? Ça a même été difficile après de reprendre les tours de chant, parce que vous étiez complètement habité, envahi par cet énorme projet, par cette comédie musicale, par son succès. Et voilà,
dès qu'on touche à Napoléon, c'est toujours difficile derrière ça. Ouais. Mais j'ai perdu en fait ce que j'ai gagné. C'est-à-dire j'ai gagné un triomphe pendant 4 ans, parce que je l'ai fait pendant 4 ans, en fait.
Hein. Ouais.
Et après, j'ai fait de la comédie, j'ai joué des pièces avec Françoise Dorin, parce que ça m'intéressait, quoi. J'ai fait des tas de choses différentes. Et puis, quand je suis revenu à la chanson, c'était difficile, parce que mon public était déshabitué.
Voilà,
parce que l'habitude de revenir tous les 2 ans, c'est comme un flot de la marée, vous voyez. Et, nouveau Serge Lama revient, etc. Et c'est avec le symphonique, j'ai fait un grand spectacle symphonique, et là, le public est revenu nerveusement.
Alors, on continue d'évoquer Serge Lama, quelques-uns, on en avait déjà évoqué d'autres dans la précédente émission qu'on avait faite ensemble, de vos énormes tubes. Alors, il y a Les Petites Femmes de Pigalle, mais il y a aussi Femme, 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 quelques années après, qui a été également un énorme succès.
Ouais.
C'est quoi l'histoire de cette chanson, en quelques mots?
C'était 2 chansons, en fait, au départ. Alors, j'avais commencé un texte sur l'une d'entre elles, et puis j'étais pas fou du refrain. Et puis... L'autre, j'aimais bien le refrain, mais j'aimais pas le couplet. Ce qui fait qu'on a tout d'un coup, j'ai dit, mais si on mariait
le couplet, et là de tout d'un coup, et
à partir du moment où j'ai trouvé femme, 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 c'est parti là. Il n'y a plus qu'à écrire, comme disent les auteurs.
Vous insistez d'ailleurs aussi dans votre texte sur le fait que le refrain d'une chanson, ça doit être très simple, avec le moins de mots possible. Là, c'est réussi, en l'occurrence.
Je suis malade, revient tout le temps.
Une île, voilà.
Voilà.
Les couplets développent et le refrain doit
c'est
simplifier
ça.
Au maximum.
C'est
hein.
ça.
Hé, l'ami, mets ton habit de fête, ton cœur de paillette et ton regard heureux.
ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux. La fête charnelle avec les plus belles. J'ai gagné le gros lot, ce soir c'est la vie de château. Femme, 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 fais-nous voir le ciel. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, 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 fais-nous voir l'amour. Femme, 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 sous son meilleur jour. Femme, 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 fais-nous in the room du prospère youpla, youpla, boum. Eh, l'ami, ce soir c'est la bourrasque. Je t'achète un masque et une chemise en soie. Ce soir je t'emmène, sors tes grands je t'aime de gala. Paris s'illumine comme une vitrine de traînée, de chevalier. Ce soir on est les héritiers. Femme, 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 n'aie pas peur de nous. Femme, 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 on n'est pas voyous. Femme, 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 choisis ton endroit. Nous on ne s'y connaît pas, on ne fait confiance. Femme, 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 on n'est que deux amis. Femme, 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 qui se paye un samedi. Femme, 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 fais-nous in the room du grand-père youpla, youpla, boum. Femme, 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 fais-nous robe du soir.
C'est encore le paradoxe de Serge Lama, parce que alors s'il y a une chanson enjouée, c'est bien celle-là. Bien que vous soyez un grand mélancolique, que les trois quarts de vos chansons le soient.
Oui, celle-ci est vraiment une chanson oui. joyeuse.
Voilà, il y en a quand même quelques-unes.
C'est une sorte d'hommage à la femme, d'ailleurs, parce que je rends souvent hommage à la femme, mais d'une façon sombre. Voilà. Une façon, reviens, voilà, près de moi, etc. Alors que là, tout d'un coup, c'est pas les petites femmes de Pigalle, là, c'est l'hommage à la femme. Quoi.
Voilà, et un immense succès encore, hein, bien sûr, Serge Lama. Je voudrais qu'on évoque aussi, alors, parce que c'est un petit peu le jeu aujourd'hui, voilà, parmi vos partenaires, vos amis, vos proches, qu'on fait tous ces succès avec vous. On a parlé d'Alice Donat, on a parlé de Jean-Claude Petit, on a parlé d'Yves Gilbert, et puis il y a Roger Loubet, qui est aussi un de vos complices très proches dans Napoléon et dans beaucoup de chansons.
Ben, je dirais que je travaillais ou avec Jean-Claude ou avec Loubet.
Pour les arrangements.
Voilà,
hein, les orchestrations.
C'est-à-dire que j'ai trouvé mon équilibre avec ces deux grands arrangeurs-là, qui a fait un chef-d'œuvre avec Napoléon, Loubet.
Oui, c'est lui.
Ah, il a fait vraiment un chef-d'œuvre d'arrangement. Et c'est vrai qu'il a fait aussi beaucoup de chansons avec beaucoup de bonheur aussi. C'est mes deux arrangeurs, on va dire, Loubet et Jean-Claude. Et voilà. Jean-Claude a quand même le mérite de m'avoir sorti la tête de l'eau.
Voilà. Mais en tout cas, non, mais ce sont aussi des histoires de fidélité, et c'est ça que j'aime bien chez vous. Serge Lama, par exemple, ça m'a frappé, il y a 15 jours, je recevais à ce micro Gilles Dreux. Oui. Gilles Dreux, qui venait de sortir un disque avec une chanson en duo avec vous, et puis j'ai vu que en fait, vous connaissiez depuis vos tout débuts, etc.
Oui, et si je vais même vous dire, la chanson dont vous avez parlé tout à l'heure, Les Glycines,
oui.
C'était à l'origine, je l'avais écrite pour lui.
Ben, voilà.
Et je lui chante Les Glycines. Et puis,
il n'était pas convaincu.
Bon, et c'est devenu ce que c'est devenu, voilà. C'est la vie.
En tout cas, vous êtes un fidèle en amitié, on peut dire. Vous avez une famille d'artistes, et c'est toujours
j'aime
la même.
Les artistes, j'aime ceux qui aiment les artistes, comme vous.
Et votre dernier disque, il est sorti en 2016, ça s'appelle « Où sont passés nos rêves ». Et voilà, c'est un disque, alors là, pour le coup, assez mélancolique, avec beaucoup de chansons de souvenirs, où on retrouve d'ailleurs votre enfance à Bordeaux et d'autres.
Il y a Bordeaux qui se détache, et puis le souvenir, la musique de Calogero, qui est merveilleuse, et Obispo a fait la musique de Bordeaux. Ouais. Et ce sont les deux chansons qui sont sorties de ce disque, mais l'originalité, c'était que des compositeurs de renom. Il y avait Julien Clerc, il y avait Cabrel, trois chansons, je crois, avec Francis. Que j'adore. Alors voilà quelqu'un.
Pour vous, il y a que deux. C'est ce que vous dites. Hein. Vous avez peut-être été un peu vite quand vous écrivez ça, mais il y a que deux chanteurs parfaits. C'est Brassens, c'est Cabrel.
Ben oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai parce que Cabrel ne fait jamais de faute de goût. Et Brassens non plus, contrairement à ce qu'on pense.
Alors que même chez Piaf ou chez Brel, on pourrait trouver de temps en temps un petit truc. Voilà.
Oui, oui, oui. mais pas chez Cabrel, il n'y a pas de faute. Je peux écouter du Cabrel longtemps et du Brassens longtemps. Et du Ferrat aussi. J'aime beaucoup Ferrat.
Voilà.
J'aime beaucoup, beaucoup Ferrat.
Vous dites d'ailleurs dans ce livre, c'est une formule qui m'a bien plu, « Je suis l'enfant... » Alors, ce sont encore d'autres que vous citez là. « Je suis l'enfant bâtard de Beco, Aznavour, Brel, Piaf, Ferré et même Mariano. »
C'est vrai.
Voilà un peu de votre famille.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire Mariano parce que c'est populaire, parce que je suis un chanteur à voix.
Voilà.
Et bon.
Chanteur à voix, ça c'est une expression qui a disparu, mais vous la connaissez.
Oui, voilà. Ouais, je suis un chanteur à voix. On était deux avec Sardou qui avions des voix, quoi, qui étaient particulières. Et puis oui, ça a tendance à disparaître dans l'air du temps. Hein.
En tout cas, on va justement retrouver Le Souvenir, une très belle chanson extraite de ce dernier album de Serge Lama.
C'est un carrousel d'infortune, un vieux manège sous la lune, dans un décor de film ancien, un regard clair qui nous revient. Ça fait du bruit dans le silence, les pas associés de l'absence. C'est du présent sans l'avenir, c'est incessant. Le souvenir, c'est dans notre vaste autrefois, la liste des premières fois, des premières cerises d'été. Sous les bois, la fête enchantée. C'est la photo prise à jamais de celle seule qu'on aimait. C'est du bonheur sans avenir, c'est oppressant. Le souvenir. Sur la table l'humanité que lit un vieux papa voûté et son cœur qui lui monte aux yeux. L'avenir sera merveilleux. C'est ignorer qu'il est admis qu'un jour on perd de ses amis. C'est de l'enfer en devenir, c'est plein d'absents. Le souvenir. Le souvenir. On avance la main à l'envers, en quête de nos cœurs d'hier. Où sont-ils dans notre passé? Les cailloux du petit poussé. Il y a cette étoile dans la nuit qui nous laisse seuls, mais qui lui, c'est du chagrin sans avenir. C'est sans le sou, le souvenir. Souvenir.
je ne vais pas dire c'est le vrai lama, mais quand même, là, voilà, le mélange de la mélancolie, la littérature, les mots, là, vous y êtes tout entier, je crois, dans cette chanson, Serge Lama.
Un calot formidable, parce qu'il a une écriture...
musicale très belle.
Formidable, c'est vrai.
Alors ça, c'est extrait donc de votre dernier album, Où sont passés nos rêves, Serge Lama. Malheureusement, on va devoir se quitter, mais je peux pas quand même résister à vous demander si vous avez quelque chose en chantier.
Sur le feu, j'ai mon disque que j'attends toujours pour enregistrer, parce que par rapport... moi, je pense pas que je ferai ma rentrée si j'en fais une. Hein.
Ouais.
Je suis pas sûr. Hein. Mais si j'en fais une, ça sera pas avant 2022.
D'accord.
Parce que ça me semble impossible.
Pour l'instant,
vu ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, et voir 23 pour mes 80 ans.
mais vous continuez d'écrire tous les matins.
Donc, j'écris à mon amour tous les jours.
Ah, c'est joli.
À la femme de ma vie que j'ai épousée il y a 2 mois. Et je lui écris depuis donc une chanson, vous imaginez, par jour, enfin un texte par jour. Depuis je sais pas combien de temps, et depuis au moins 6-7 ans, je lui écris des trucs tous les jours.
Tous les jours.
Donc voilà. Vous imaginez tous les textes qu'elle a.
C'est très beau, ça va peut-être faire le sujet d'un disque alors justement. Merci d'être revenu avec nous.
Ben écoutez, c'est un plaisir toujours, Benoît. Vous le savez, tous les artistes vous le lisent, j'imagine.
Et puis c'était l'occasion aussi de saluer votre père, hein, Georges Chauvier, à l'occasion de l'apparition de ce disque. Que d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé d'opérette et puis que vous aimez Mariano, je propose qu'on se quitte avec le grand Louis. Ça vous convient ?
Excellente idée.
Alors, j'espère.
À très bientôt.
À très bientôt. Oui.
Que ces fleurettes, quand le bonnet d'un passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes, car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme, c'est toi qui seras toujours mon seul amour. Violetta, mon ami si jolie. Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour est comme ces violettes. Il se fane un beau jour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ses fleurettes. Car au fond de mon âme, c'est c'est toi qui seras toujours mon seul amour.
L'amour est un bouquet de violettes, c'était bien sûr Luis Mariano dans Le Chanteur de Mexico, version film, car cette chanson ne figure pas dans l'opérette originale. C'était en tout cas un des choix de Serge Lama qui est venu ce matin à l'occasion de la parution de Quand Papa Chantait, les souvenirs de Serge Lama en 50 chansons chez Marianne Mélodie. Et je remercie d'ailleurs Mathieu Moulin, le responsable de Marianne Mélodie, qui nous a aidé à réaliser cette émission.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour cher Benoît.
Et je crois aujourd'hui que vous nous proposez un petit programme de musique légère, pour ne pas dire récréative.
Absolument, et elle sera consacrée, cette chronique, à des formations instrumentales, le plus souvent anglo-saxonnes. Et alors, pour débuter, je vous propose un extrait de Tabarinage, l'une des plus belles pièces de musique légère anglaise, dont l'auteur est le pianiste Robert Docker, connu aussi pour avoir été l'arrangeur pendant un temps pour les services musicaux de la BBC. L'orchestre est ici dirigé par Vivian Dunn.
Tabarinage de Robert Docker par l'orchestre de la Société de musique légère britannique sous la direction de Vivian Dunn. Je m'avise d'ailleurs tout d'un coup, Serge, en repensant à ma collection spéciale, notamment chez Naxos, qui a beaucoup, beaucoup de musique légère britannique enregistrée notamment aux grandes heures de la BBC.
Absolument. Alors là, cher Benoît, je vais vous faire une petite surprise avec la version instrumentale du grand succès Avec son tralala, chanté par votre regrettée amie Suzy Delair dans le film Quai des Orfèvres.
Ça magnifique. Vous rappelle quelque chose. Ah là là, mais comment?
Eh oui. Et alors, c'est le compositeur et arrangeur britannique Ken Thorne qui joue cette musique avec son orchestre. Et Ken Thorne est bien connu aussi pour avoir écrit avec les Beatles la bande originale du film Help, traduisant au secours, c'était en 1965.
Bah oui, je suis vraiment content que le tralala de Suzy Delair ait franchi la Manche dans cette version donc instrumentale sous la direction de Ken Thorne, enregistrée dans les années 60, un choix de notre ami Serge et Laïc.
Alors Benoît, c'est ensuite Russ Conway, l'incontournable star anglaise du piano bastring, qui interprète avec son style inimitable One of Those Songs, autrement dit le bal chez Madame de Mortemouille, autre grand succès français, signé Gérard Calvi, et c'était évidemment pour les spectacles des Branquignoles dans les années 50.
One of the Songs, le tube mondial de Gérard Calvi, interprété par Russ Conway sur son piano bastring en 1966. Et alors ce matin, on est gâtés, hein, Serge, parce que c'est que de la haute fidélité et de la stéréo.
Ah ben j'ai cherché pour vous, vous savez Benoît, comme chaque fois. Hein. Alors maintenant, c'est au tour du chef d'orchestre américain Leroy Holmes d'être à l'honneur. Et Leroy Holmes fut l'auteur d'un nombre considérable de disques instrumentaux, mais aussi l'arrangeur du trompettiste Harry James dans les années 40, sans oublier qu'il signera aussi des arrangements et accompagnera des stars comme Judy Garland ou Shirley Bassey. Sa version orchestrale de Tara Lara, associant cordes et guitare solo, est une petite merveille.
Eh bien, mon cher Serge, j'achète, hein, c'est excellent ça, Tara Lara par l'orchestre Leroy Holmes en 1961.
Merci cher Benoît. Alors pour terminer, pour vous faire encore plaisir, je voudrais à nouveau saluer la mémoire de Claude Bolling qui nous a quittés en décembre dernier. En 1960, eh bien Claude avait composé la musique de la chanson « Quand j'entends cet air-là » interprétée à l'époque par l'américaine Joan Richmond, qui chantait en France d'ailleurs à ce moment-là. La version instrumentale de Claude Bolling conclura cette chronique en mode jazzy, cher Benoît.
Thank you.
Quand j'entends cet air-là, une composition de Claude Bolligne de 1960, le regretté Claude Bolligne, qu'on entendait ici avec son orchestre. Merci Serge.
Eh bien, merci cher Benoît.
Et je rappelle que Claude Bolligne, comme tous les autres grands arrangeurs, chefs d'orchestre, eh bien, on peut le retrouver dans la Bible que vous avez écrite ces dernières années. Vous nous rappelez le titre et l'éditeur, un livre indispensable.
Les arrangeurs de la chanson française paru chez Textuel. Je vous remercie Benoît. Alors, ce que j'espère aussi, c'est d'être à vos côtés la prochaine fois, Famé, en studio.
Oui, parce que les auditeurs ne l'ont pas entendu.
Oui,
en fait, nous étions à distance sanitaire. Merci Serge, je vous souhaite un bon week-end.
À bientôt.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Stéphane Poitevin, réalisation Cyrielle Weber. Et on se retrouve samedi prochain, j'aurai la joie d'accueillir Enzo. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.